Le père Louis-Édouard Sestac, l'agriculture au service de l'homme, hier et aujourd'hui. C'est le thème d'une conférence débat sur l'agriculture organisée par la Congrégation des Servantes de Marie le 25 avril 2015 à Anglette, à la salle polyvalente de Notre-Dame du Refuge. Louis-Édouard Sestac, l'agriculture au service de l'homme, hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, nous vous proposons deux interventions enregistrées le 25 avril à Anglette. Celle de sœur Jacqueline Bordenave, supérieure générale des servantes de Marie, le père Sestac, agriculteur, et l'intervention de Guy Roussel, assistant ingénieur à l'INRA de Bordeaux, retraité, la Pignada au début du 19e siècle et aujourd'hui. Et nous commençons tout de suite par l'intervention de sœur Jacqueline Bordenave, supérieure générale des servantes de Marie, le père Sestac, agriculteur.
Je vais vous parler du père Sestac, agriculteur. C'est au 24 novembre 1838 que s'enracine ici une aventure humaine, spirituelle et agricole que nous allons évoquer ce soir. Cette date, c'est l'achat par le père Sestac d'un domaine agricole. Comme on vous l'a déjà dit, il était vicaire à la cathédrale de Bayonne. Il avait accueilli des fillettes errant dans les rues, puis quelques jeunes prostituées désirant fuir le milieu. C'est pour ces dernières qu'il achète à crédit le domaine Châteauneuf qu'il nomme Notre-Dame du Refuge. Pourquoi un tel achat ? Dans la réflexion et la prière, il a vu que ces jeunes devaient retourner à la campagne et retrouver les travaux de la terre. Contrairement aux usages du temps qui prévoyaient que pour ces personnes, des lieux d'asile bien fermés et en ville, le père Sestac leur offre une maison à la campagne, aux portes ouvertes où, avec celles qui les encadrent, elles cultiveront les champs. Disons en passant que cette idée neuve rencontre de vives oppositions des railleries et son promoteur est vu comme un doux rêveur. Mais pour ce dernier, plusieurs raisons à ce choix. D'abord, trouver des moyens de vivre indépendants de la charité publique. Puis, ramener la plupart de ces jeunes issus du monde rural à leur premier genre de vie. Il veut aussi leur offrir un travail au grand air, source d'équilibre et de santé. Enfin, il pense aider les agriculteurs locaux. Au ministre des Cultes, il explique : je pourrais exposer le plan de quelques améliorations que je ne désespère pas d'introduire dans l'agriculture du pays encore arriérée. Ça, c'est en 1839. Comment le père Sestac s'est-il formé à l'agriculture au point de devenir un agronome réputé? Il cherche à se documenter avec soin. Nous avons conservé sa bibliothèque où nous trouvons une section de livres d'agriculture. Nous y repérons les ouvrages qui ont orienté ces divers travaux agricoles. Contentons-nous de signaler le jardinage avec l'art de produire de bonnes graines, la fertilisation avec un guide pratique des engrais, le drainage et l'art de découvrir les sources, les vaches laitières avec un traité d'un spécialiste appelé Guénon. Ils s'abonnent aussi à des journaux spécialisés, à un rédacteur qui lui a annoncé la cessation de sa publication, il répond « Je le regrette vivement. C'était un répertoire hors de prix pour moi. Je reconnais que je lui dois beaucoup. Je suis bien certain qu'avec votre collection bien éditée, un homme, tant soit peu intelligent, pouvait admirablement faire prospérer une entreprise agricole. Dommage que nous n'ayons aucune trace de ce journal. Il lit avec intérêt tout ce qui touche aux méthodes nouvelles. Il essaie les recettes que préconisent les périodiques, telle la recette d'une boisson à partir du sorgho donnée par le journal Message. Il lui arrive de correspondre avec des auteurs ou des chercheurs. Il s'informe auprès du rédacteur, du moniteur des comices et des cultivateurs sur la construction possible d'une machine à broyer. Il est non seulement abonné à la Gazette des campagnes, mais il correspond. Il écrit des articles sur ce journal. Les visites et les contacts sont aussi, pour le père Sestac, occasion de s'instruire. Une première visite d'importance a lieu au lendemain de l'installation des jeunes ici, sur le domaine. L'abbé Sestac va passer une quinzaine de jours à l'abbaye de la Meilleraie, en Loire-Atlantique. Les moines cisterciens de retour de l'exil en Angleterre avaient transformé leur monastère en un véritable centre agricole. À la suite de son séjour, l'abbé écrit « Je viens de passer quelques jours dans le monastère pour étudier par moi-même leur méthode et les prodigieux résultats qu'ils ont obtenus. » L'organisation de l'abbaye aux multiples activités agricoles et artisanales a sûrement inspiré le directeur de Notre-Dame du Refuge. Plus tard, au gré de ses nombreux déplacements, il saura faire des visites intéressantes. Ainsi, au château du Vignon, dans les Landes, il trouve un remarquable élevage de porc. Il demandera au propriétaire, le comte de Dampierre, une femelle pour l'élevage de Notre-Dame du Refuge. Sous la direction du père Sestac, la pratique agricole au refuge se développe dans plusieurs directions, l'élevage et la culture. À l'achat du domaine, il y avait 6 vaches. Le sage directeur s'attache à améliorer le troupeau de vaches laitières. La sélection des bêtes, le choix de reproducteurs, l'alimentation et d'ingénieuses installations contribuèrent à ce progrès. Si bien que le père Sestac est bientôt regardé comme une compétence en la matière. Sa correspondance montre que l'on s'adresse à lui pour se procurer de bons spécimens. Les mêmes critères de sélection et de soins sont suivis pour l'élevage des porcs. La porcherie aux installations réfléchies et pratiques était regardée comme une des plus belles. La production porcine constituera une ressource alimentaire importante pour la communauté. Ainsi, une lettre de 1862 du père Sestac mentionne qu'on a abattu à Notre-Dame du Refuge 40 cochons gras. L'élevage de la volaille était tout aussi pratique et raisonné. La culture du maïs, appelée à l'époque blé d'Inde, était traditionnelle à Anglette. Le père Sestac la continue et la développe. Les terres labourables du domaine sont presque exclusivement ensemencées en maïs. Sans rentrer dans le détail, rappelons que dans les débuts, la communauté se nourrissait de méthure à base de farine de maïs. Les feuilles pour le bétail, les spathes, c'est les membranes qui entourent l'épi de maïs, pour la literie, paillasse ou traversin, le fuseau sec ou rafle pour combustible, les tiges pour les litières. Le maïs offrait de larges ressources à la communauté. Mais le directeur du refuge n'hésite pas à essayer des cultures nouvelles, comme celle du sorgho. La culture des légumes, base de l'alimentation, est particulièrement soignée. Le père Sestac écrit « Le choix très soigné des graines de semences a une importance qui n'est pas assez connue et qui contribue à la richesse de nos produits. Il pratique donc la sélection des semences, recherchant et insistant pour avoir les meilleurs spécimens. Nous le repérons dans sa correspondance. Il n'hésite pas à introduire dans les sables des variétés localement inconnues, comme le chou-fleur ou le salsifis. Pour améliorer les récoltes, le père Sestac recherche et expérimente divers fertilisants et amendements. Il écrit « Les labours, le drainage, préparent, assainissent le logement des plantes, mais ce sont les engrais qui les nourrissent. La terre, faute d'aliments, ne peut ni produire ni développer les plantes qu'on lui confie. » Il écrit ça en 1846. Parmi les amendements utilisés, le père Sestac préconise le terreau. Écoutons-le en parler avec presque du lyrisme. Le terreau, quelle source de richesse! Pour moi, je puis en parler savamment, je ne fais que du terreau et nos terres sont luxuriantes. Il faut un peu plus de main-d'œuvre, mais comme il amende les terres, comme il les modifie selon la volonté de l'agriculteur. Le père Sestac se montre fréquemment novateur. Il n'hésite pas à se porter candidat pour essayer d'acclimater la graine d'argan. Il cherche à utiliser la rafle de l'épi de maïs pour l'alimentation des animaux. Du sorgho, il tire une boisson fermentée et un sirop qu'il présentera au concours régional de Mont-de-Marsan. Il lance une expérience de pisciculture qui débouchera dans l'éclosion des poissons nécessaires au repeuplement du lac Morisco à Biarritz. On refuge dès 1868 un appareil à traire les vaches est utilisé et le père Sestac enverra ses observations à la Gazette des campagnes. Il a tenté, et avec quelle persévérance, l'ensemencement des dunes pour fixer le sable dévastateur. Mais M. Roussel vous entretiendra avec compétence de ce sujet. Première conséquence de tous ces travaux, de tous ces efforts, la communauté voit l'épreuve de l'extrême pauvreté du début et des dettes se retirer. Le domaine du refuge se change en ferme modèle que l'on vient admirer. De plus, l'exemple du père Sestac devient un stimulant pour les agriculteurs de la région. Quand les pouvoirs publics de Bayonne fondent un comice agricole, le père Sestac est élu président le 8 janvier 1857. Ce ne sera pas un vain titre pour le fondateur du refuge. Il apportera à cette fonction la richesse de son intelligence, son esprit pratique et ses talents de novateur. Pour témoigner la reconnaissance du pays, l'empereur Napoléon III le décorera chevalier de la Légion d'honneur en octobre 1865. Mais d'autres résultats se dévoilent aussi. Dans le travail salubre des champs, les repentis qu'il a accueillis ont retrouvé la paix du cœur. Elles n'ont plus à se considérer comme des parasites de la société. Elles gagnent le pain qu'elles mangent. Mieux, elles sont utiles à d'autres. Les orphelines de Bayonne vivent grâce à leur travail. Le père Sestac le souligne. L'établissement des orphelines est puissamment secouru par celui des filles repenties. C'est de là que viennent les légumes, la graisse, le lait et les œufs qui les nourrissent. L'aide ne se limite pas aux orphelines. Les repentis et les sœurs qui les accompagnent sont aussi les témoins de l'accueil des pauvres que permet leur travail constant et généreux. Enfin, ces jeunes filles, hier avilies, repoussées, partagent maintenant avec leurs éducatrices la joie et la fierté de la réussite sur le domaine de Notre-Dame du Refuge. Et tandis que les sables se transforment en jardin et les dunes se couvrent de pin, quelques prostituées d'hier sentent germer en elles une vie tout intérieure. Bientôt, celles que le monde rejetait seront, dans les sables de Saint-Bernard, le signe du plus grand amour. Je vais passer la parole à M. Guy Roussel, qui vous parlera de la forêt et des dunes.
Le père Sestac, agriculteur, vous venez de suivre l'intervention de sœur Jacqueline Bordenave, supérieure générale des servantes de Marie et des Bernardines. Et voici maintenant l'intervention de Guy Roussel, assistant ingénieur à l'INRA de Bordeaux, retraité, la piñada au début du 19e siècle et aujourd'hui.
Quand on m'a demandé de parler de l'activité forestière de l'abbé de Sestac, j'espérais, J'espérais trouver beaucoup de détails, comme tous les détails qu'a donné Sœur Jacqueline. Malheureusement, on en a quand même un peu moins. Donc je vais vous parler surtout de ce qui a été réalisé au niveau aquitain, et je reviendrai, quand je le pourrai, sur ce qui a été propre à l'abbé de Sestac et sa communauté. Donc, au XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle, l'exploitation des produits issus du pain landais n'a pas attendu le XIXe siècle pour se développer. C'était une activité notable en Aquitaine, dans le Marais-Saint par exemple, sud des Landes. Bayonne expédiait par voie maritime, brais sec, résine, goudron, térébenthine, bois. Donc là, sur la diapo, vous avez le récolteur de résine qui est sur son piteil, le chariot qui servait à transporter avec des bœufs des produits résiniers et des bateaux qui partaient dans toute l'Europe. Bon, jusqu'au XVIIIe siècle, rien n'avait guère été fait pour fixer les sables en dehors de quelques plantations de gourbet et semis de pin. Au XVIIe siècle, à l'embouchure de la Dour par la ville de Bayonne. Il est difficile aujourd'hui d'imaginer l'état des côtes de la région avant la fixation des dunes au XIXe. Il y avait un désert de sable mobile soumis au vent inhospitalier à la place du beau front de mer aménagé pour les plaisirs de la plage actuelle. Donc là, je vous cite des écrits que j'ai retrouvés dans les publications au sujet de l'abbé Sestac. Donc voilà ce qu'il écrit. En effet, dans cet immense désert où nul bruit, nulle voix au monde ne se faisait entendre dans ce silence solennel qui n'était interrompu que par le grondement des flots de l'océan qui le rendait plus imposant encore, la voix de Dieu parla puissamment à toutes ces âmes. Ça donne un peu une idée de ce qu'était ce désert. Donc tout cela va changer au début du XIXe siècle. Quelques Landais anonymes avaient bien tenté d'ensemencer ces sables au XVIIIe. Quelques écrits nous sont parvenus avec l'abbé Louis de Guillaume d'Esbé et son frère Mathieu d'Esbé. Donc Brémontier s'inspira de tous ces travaux, obtint les fonds pour réaliser ces travaux à grande échelle. En 1801, l'œuvre de fixation et de boisement des dunes par le pin maritime fut achevée par l'administration des forêts en 1876. Donc là sont soulignés les premiers essais qu'a réalisé Brémontier à l'embouchure à l'entrée du bassin d'Arcachon. Donc là, nous avons la preuve effectivement qu'au XVIIIe siècle, le désert de sable existait bien. C'est une carte de l'époque. On voit bien les dunes au sud de la Dour. Donc ici, je vous ai mis les chronologies historiques de la vie de l'abbé Sestac de 1801. Alors là, je crois que c'est autour de 1868, et les deux grandes réalisations qui ont été faites au niveau aquitain. Donc la première, la fixation massive des dunes, qui s'étale de 1800 à 1876, et l'assainissement des Landes, démarre par la loi de 1857 et se termine autour des années 1900. Donc, dans la loi, j'ai rappelé les dates d'achat de la propriété de Châteauneuf, 1838, l'achat de quelques arpents de sable, mais Sœur Jacqueline m'a précisé qu'il en a acheté d'autres par la suite. Donc, dans un document, l'histoire des boisements des Landes de Gascogne de Sargosse en 1939, on nous explique la technique d'ensemencement des sables. Donc, voilà ce qu'on écrit. On réalise un semis de graines de pin en mélange avec des graines de genêt et de jonc épineux. Le semis est couvert de fascines maintenues par des petits piquets à l'abri de clés de mage. Toujours dans les écrits de Brémontier, on voit comment sont réalisées les fascines. Ce sont des branchages qui sont fixés dans le sable à l'air de piquets. Vous avez en tranche plus bas la façon dont les piquets sont plantés dans le sable qui mettent à l'abri les semences. Donc le clayonnage, lui, par lui-même, c'est des petites haies. Là, je vous présente la façon dont un ingénieur, un peu plus tard, a mis au point la fixation des premières dunes du littoral. Donc c'est ce qu'on appelle des dunes blanches où il n'y a pas de semis de pin. Mais c'est essentiel pour protéger les dunes suivantes. Donc, à 70 mètres environ du littoral, de la mer Haute, on part successivement par palissage, on réalise une première ligne triangulaire et ensuite un autre palissage beaucoup plus près du rivage qui va combler l'ensemble qui est fixé par des gourbets. C'est ce qu'on appelle la dune blanche. Derrière cette dune, il va y avoir ce qu'on appelle la dune grise, qui où sont des espèces où il y a très peu de pins, où ils sont dans un état assez abîmé, et les vieilles dunes, elles, plus tard, plus loin, je veux dire, sont plantées de pins. Donc, le second travail du 19e siècle a été l'assainissement des Landes, qui a permis l'ensemencement de pins. Cet assainissement a consisté à capter l'excès d'eau hivernale piégée par le relief et peu propice à la culture du pin maritime. De profonds fossés et canaux dirigent ces eaux jusqu'à la mer par les cours d'eau naturels. Donc ici, vous avez, si on veut, une idée de l'état des Landes à l'époque. Et vous avez les deux principaux ingénieurs qui ont réalisé ces travaux. Crouzet avait plutôt travaillé dans la partie landaise et Chamberlain dans la partie girondine. Donc là, vous avez trois cartes qui vous donnent une idée de l'évolution du massif forestier au niveau de l'Aquitaine. Donc en l'espace d'un siècle, le grand triangle des Landes a été conquis par les pins et on voit que le cordon dunaire lui-même est fixé. Donc là, nous revenons sur les différentes cartes où la première montre le désert tel qu'il était au 18e siècle. En 1820, c'est une carte d'état-major qui donne un peu une idée de l'évolution et du développement du refuge, et une carte de 2014 où on voit que la Pinède est entourée par la ville maintenant. Alors, localement anglais, le rôle de l'abbé de Sestac et de la communauté des pénitentes, sans doute, a été de pratiquer la technique de semi-protégé type fascine et clayonnage. Les écrits nous étant parvenus ne donnent pas de détails, sinon que certains semis ont dû être pratiqués plusieurs fois. Ça, on le comprend, le vent ne devait pas permettre ce genre de choses. Donc là, je vous présente l'économie du gemmage qui a été une importante au 19e siècle. Donc vous avez la récolte de la résine dans la pinède, le charriage des récoltes à l'aide de chariots, et là c'est une activité de le cellophane est ensoleillé, c'est une évolution du produit. J'aurais pu vous faire aussi une diapo sur les produits du bois, mais bon, je n'y ai pas pensé à l'époque. Donc, alors, la fixation de la dune et l'assainissement des Landes ont été une vraie révolution pour la région. Le 19e et le 20e siècle ont vu la disparition de l'économie pastorale dans les Landes, 30 ans de crise. L'économie du gemmage s'est énormément développée et cette embellie a duré une quarantaine d'années. L'apparition de la liniculture et de la sylviculture pour une meilleure production du bois, papier, industrie du bois. Donc là, une chose importante, les accidents climatiques ont été facteurs de nouveaux challenges. La création des pare-feux et l'organisation de la lutte après les incendies catastrophiques des années 40, les grands froids de l'hiver 85 ont participé aux décisions de contrôler les semences utilisées pour les plantations, fragilité au grand froid des semences introduites du Portugal après les incendies des années 40. Les techniques de sylviculture sont mises en question après les chablis massifs, dont les chablis, je précise que c'est la chute des arbres lors des tempêtes. Et donc, après les chablis massifs des tempêtes de 1999 et de 2003. Ici, sur la diapo, vous avez des grands pins qui ont été sélectionnés dans les années 60 pour avoir un échantillon de toutes les Landes des meilleurs génomes. Ici, vous avez un technicien qui réalise des croisements contrôlés qui sont à l'origine des graines qui sont imposées actuellement sur le marché. Et là, vous avez un pin qui a été terrassé en 99. Donc voilà, disons, l'actualité de ce massif forestier cerné par la ville. Il est difficile d'imaginer le désert tel qu'il est actuellement. Donc au XXIe siècle, les outils modernes, l'informatique, la biologie moléculaire, la géolocalisation, etc., ne seront pas de trop pour aborder de nouveaux challenges. La pinède landaise est une monoculture fragile devant le réchauffement climatique. L'arrivée de nouvelles pathologies du pin, nématodes, sont dès aujourd'hui d'actualité. La mer remodèle le littoral, Xynthia, hiver 2013-2014. Il y aura toujours besoin de précurseurs, de têtes de pont telles que l'abbé Sestac, ayant un esprit pionnier, utilisant toutes les connaissances pour appréhender les défis à venir. Je vous remercie.
Vous venez de suivre l'intervention de Guy Roussel, assistant ingénieur à l'INRA de Bordeaux, retraité, la piñada au début du 19e siècle et aujourd'hui. La semaine prochaine, vous entendrez la seconde et dernière partie des interventions enregistrées à Notre-Dame du Refuge à Anglette le 25 avril, dans le cadre de la conférence Le Père Louis-Édouard Sestac, l'agriculture au service de l'homme, hier et aujourd'hui. Rendez-vous même lieu, même heure pour la seconde et dernière partie la semaine prochaine.